Chapitre 46.
Arrête les chiens, Khadija !
Hurla Solman. Les formes étaient encore floues, mais sa vision lui avait montré des images fugaces d'hommes, de femmes et d'enfants à l'intérieur de chariots bâchés tirés par des attelages de bœufs.
Tu perds la tête ! Protesta Moram. Et si c'était ces salopards de Slang ?
Arrête les chiens !
Reprit Solman d'une voix suppliante. Khadija ne bougea pas, aucune expression ne troubla son visage, mais les chiens, dont une centaine avait déjà atteint le fond de la gorge, cessèrent de courir et se figèrent dans une posture d'attente, les pattes tendues, la tête rentrée dans les épaules, la gueule entrouverte. Moram lança un regard stupéfait à la jeune femme. L'immobilisation subite de la horde le renforçait dans sa conviction qu'elle était une magicienne, une sorcière. Il tritura avec nervosité la crosse de son revolver. Depuis que les circonstances l'avaient poussé à se glisser dans l'intimité du donneur, il se sentait dépassé par les événements. Il avait l'impression qu'une porte s'était ouverte dans le ciel par laquelle s'engouffraient les personnages des légendes aquariotes et de ses cauchemars enfantins. Il repoussa la tentation d'allumer les phares et d'éclairer la gorge où les ombres grises s'agitaient comme les tentacules d'un monstre. Un froid pénétrant dispersait les derniers nids de chaleur et s'installait en maître dans la cabine.
Faudrait qu'elle m'explique un jour comment elle fait pour commander à cette meute sans ouvrir la bouche,
marmonna le chauffeur. L'univers est régi par des lois que nous ne connaissons pas, dit Solman. N'est pas parce qu'on ignore certaines choses qu'elles n'existent pas. Moram désigna Khadija de son revolver.
Peut-être, même flanque la frousse.
Solman posa l'index sur le canon de l'arme. La tuer ne te délivrerait pas de tes peurs. Pas davantage que le sang versé n'a assouvi la faim de pouvoir des pères et des mères aquariotes. Pas davantage que sa tentative de viol n'a délivré Tchak de ses obsessions.
Moram ouvrit la bouche, hésita, s'absorba dans la contemplation de la veine sombre du goulet, des formes qui émergeaient peu à peu de l'obscurité, puis remisa son revolver dans la ceinture de son pantalon.
« J'ai un putain de grand corps, des muscles épais, on me croit fort, courageux. Et pourtant, il ne se passe pas une minute dans cette chérie de vie sans que je sois bouffé par la trouille. »
Un voile de tristesse avait glissé sur ses traits et allumé des lueurs humides dans ses yeux.
Je l'ai jamais dit à personne, boiteux, mais, dans le fond, je suis resté le gamin que le moindre coup de vent effrayait. Je pensais, qu'en ta compagnie, j'apprendrais à ignorer les foutus démons qui me rognent les tripes, mais... C'est le contraire qui se produit. Ces salopards prennent de plus en plus de place.
Je ne peux pas te débarrasser de tes peurs, Moram. J'ai déjà assez à faire avec les miennes. Il faut seulement que tu les acceptes. Elles grossissent à ton insu si tu les refuses.
Ouais. Tu m'as déjà dit un truc comme ça. J'arrive pas à me regarder avec les yeux de l'amour, putain.
Non. J'y arrive pas.
Regarde-toi déjà avec humour. T'auras fait le premier pas. Le chauffeur frissonna, remonta le col de sa veste et se rencogna sur son siège. Il pesta intérieurement contre les intrus qui, quels qu'ils fussent, l'avaient obligé à s'immobiliser et à couper le moteur, donc le chauffage. Allez donc vous regarder avec humour quand vous êtes coincé dans un froid et un paysage pareil, veillé par des chiens qui peuvent vous couper en deux d'un seul coup de mâchoire, accompagné d'une fille qui ne prononce pas un traître mot et qui pourtant commande aux cohortes des anges, guidée par un donneur qui lit en vous aussi clairement que dans une source d'eau et vous renvoie impitoyablement à vos contradictions. Comment trouver de l'humour à une existence marquée par la mort, la peur, la fuite, la désespérance? Comment plaisanter sur les cadavres de ses parents à demi déchiquetés par une mine à fragmentation des hommes de l'ancien temps? Comment sourire d'une enfance passée dans un monde où chaque plante est une meurtrière en puissance, où chaque gorgée d'eau peut vous emporter en quelques secondes? où chaque bosquet cache une horde d'animaux sauvages ou un essaim d'insectes génétiquement modifiés, où aucun bras, aucune poitrine ne vous étreint pour vous rassurer, vous protéger, vous consoler, où la solitude est la seule compagne de vos nuits désespérantes, où le culte des absents se traduit par un besoin obsessionnel de séduire les femmes, de les posséder, puis de les quitter, sans laisser d'empreinte, afin de s'épargner de nouvelles déceptions. Oui, bon Dieu, comment avoir de l'humour sur cette putain de vie? Est-ce qu'une fille comme Aura pourrait vraiment aimer un homme comme lui? Est-ce qu'il pouvait vraiment avoir confiance en une femme comme Aura? Les formes approchaient du camion, et Moram ne les discernait toujours pas. La faute n'en était pas à l'obscurité, mais aux larmes qui lui brouillaient la vue. Vaguement honteux, il se redressa et s'essuya les yeux d'un revers de main rageur. Des images et des sensations lui vinrent instantanément à l'esprit lorsqu'il distingua les attelages de bœufs et les chariots en bois. Les plaines du Nord battues par un vent chargé d'iode, les maisons sur pilotis dressées comme des échassiers au bord d'une mer grise, les digues à demi ventrées, les odeurs de fumier, de crottin, de céréales fermentées. On dirait des chelnes, souffla-t-il. Ce sont des chelnes, confirma Solman. Moram apercevait à présent le chapeau, les vêtements et la longue barbe du conducteur assis sur le banc du premier chariot. Il entrevoyait, par l'entrebâillement des bâches, la mante grise et la coiffe ronde d'une femme penchée sur ce qui pouvait être un berceau. Les reliefs en arc de cercle de leurs côtes se découpaient sur les flancs des bêtes qui marchaient d'un pas pesant, la tête penchée vers l'avant, les cornes recouvertes d'un manchon de cuir. À première vue, une quinzaine d'attelages avançaient ainsi au rythme lancinant d'une procession funéraire.
« Ça leur a fait un bon millier de kilomètres depuis là-haut, » murmura Moram. « En plein hiver. »
« Allons à leur rencontre avant que les chiens n'effraient leurs animaux, » proposa Solman. Moram s'astreignit à surmonter sa crainte des chiens pour suivre Solman et Khadija. Il prit garde, toutefois, à ne pas frôler, même par mégarde, le flanc de l'un des molosses qui, debout dans la neige, guettait le signal de la curée. Aussi figé que la roche, une partie de la horde se tenait sur les excroissances étagées des parois, telle une armée de gargouilles. Dehors, le vent, virulent, irascible, trouait le cuir épais des vestes et des bottes avec la même facilité qu'il aurait transpercé des tricots de maille. Il gonflait la robe de Khadija, dévoilait par instants ses jambes et ses pieds nus. Mais la température, qui, selon les estimations de Moram, oscillait entre -20 et -30 degrés, semblait n'avoir aucun effet sur elle. Le chauffeur interpréta cette insensibilité au froid comme une nouvelle preuve des pouvoirs surnaturels de la jeune femme. Le chelne tira sur les rênes lorsqu'il vit les trois silhouettes s'avancer dans sa direction. Il eut un instant d'hésitation, puis plongea la main dans la poche de son lourd pardessus de laine et l'en ressortit avec un pistolet rouillé.
« Je croyais que ces cro-magnons refusaient de toucher le métal. » murmura Moram, qui, sous sa veste, empoigna discrètement la crosse de son revolver.
Solman écarta les bras pour signifier au conducteur de l'attelage qu'il n'avait rien à craindre d'eux. Les bœufs, épuisés, squelettiques, n'avaient même plus la force de relever la tête. Le bois du joug avait imprimé des marques profondes, purulentes, sur le cuir de leur cou.
Le chelne cracha une salve de mots dont les sonorités gutturales accentuaient l'inflexion menaçante.
« Nous sommes aquariotes !» cria Solman. « Est-ce que vous parlez français ?»
Pour toute réponse, le chelne braqua son pistolet sur ses trois vis-à-vis et continua de libérer un flot incompréhensible jusqu'à ce que la femme passe la tête par l'entrebâillement de la bâche. Elle lui frappa le bras pour le contraindre à baisser son arme et à se taire. Puis elle descendit du chariot par le marchepied, longea le limon et s'avança vers eux d'une démarche vacillante.
« Ya, je... Parlez français, petit peu,
dit-elle d'une voix éteinte. Ses yeux brillaient de fièvre sous ses arcades sourcilières saillantes. Son visage n'était plus qu'un lacis de creux et de relief souligné par la sévérité de son chignon enfoui sous sa coiffe. Sa jeunesse se devinait en filigrane sous le vernis d'usure qui donnait à sa peau une teinte grisâtre, maladive. Sa mante et sa robe, toutes les deux faites d'une laine grossière, répandaient une âpre odeur de mouton. « Pourquoi vous êtes-vous lancé sur les pistes en plein hiver ?» demanda Solman. Un froncement prolongé des sourcils indiqua qu'elle n'avait pas compris la question. Solman la lui reposa, plus lentement, en détachant chacune de ses syllabes.
« Ya, nos maisons, nos récoltes détruites, notre peuple tué, nous partir avant d'être tués. »
« Qui vous a attaqué ?»«
Chien, tu es homme, enfant. Slang, violer femme, fille, puis tuer elle, mettre feu maison. Comment leur avez-vous échappé ?»« Nous, radeau, suivre canot ancien temps, arriver milieu France, puis canot gelé. Suivre piste vers sud. Grand rassemblement.
Les Slang ne vous ont pas retrouvé ?
Nein, nein. Seul chien sauvage suivre nous. Voler réserve, tuer hommes et femmes. Prendre enfants. »
Elle éclata en sanglots. Et Solman vit qu'elle avait perdu deux de ses enfants au cours de leur périple. L'un dévoré par les chiens sauvages, et non par les soldats de l'intelligence destructrice. L'autre emporté par la faim. Sa coupe à nouveau déborda de cette compassion amère qu'il avait ressentie devant Irwan et les aquariotes rassemblés sur la place de la ville fortifiée. Les Cheulnes avaient beau être des fanatiques du retour au naturel et déverser leur mépris sur les autres peuples, ils restaient avant tout des hommes, des pères, des mères, des enfants, frappés cruellement dans leur chair. Leur exode, ainsi que celui des aquariotes, ne connaîtrait pas d'autre issue que la mort si les derniers hommes ne trouvaient pas le moyen de neutraliser l'intelligence destructrice, d'enrayer cette force insaisissable. La présence du pistolet montrait en tout cas qu'ils avaient déjà renoncé à quelques-uns de leurs principes. Les épreuves avaient fissuré leur armure de rigidité.
« Vous n'avez plus d'eau ? Plus de vivres ? Nein, beaucoup malade, presque mort. Et les 12 chefs de famille, où sont-ils ? »
Elle secoua la tête avec lassitude.
« Slang, cloué tête, tous les Cheulnes sur bois, piquet.
Quel est votre nom ?
Jeska.
« Eh bien, Jeska, que diriez-vous d'abandonner vos chariots et de venir avec nous ?» Du coin de l'œil, Solman entrevit la grimace de réprobation de Moram. « T'es cinglé. On n'a même plus assez de réserve pour nous. » « C'est le moment ou jamais de faire confiance à notre mère nature, » répliqua Solman. « Ils sont aussi ses enfants. »«
Ouais, mais ces Cro-Magnons ne sont pas nos frères !» À part le jour où nous leur livrions leur eau, ils passaient leur temps à nous pisser dessus. »
Leur voix prenait de l'ampleur au fond de la gorge, volait sur les rafales de vent, se prolongeait en écho assourdi entre les parois. «
Les temps ont changé, Moram. Ce que nous n'avons pas réussi à faire au grand rassemblement, nous avons l'occasion de le faire ici. »«
Tu parles d'un rassemblement, » ricana Moram. « Une poignée de fanatiques à moitié dingues et aux trois quarts morts de faim. »
Les yeux délavés, effarouchés, de la femme Cheulne allaient de l'un à l'autre avec un temps de retard, se posant parfois sur Khadija, comme pour l'implorer d'intervenir, de l'aider à saisir. La méfiance fermait toujours le visage de l'homme assis sur le banc du chariot.
« Vu leur état,
Leurs bœufs ne les mèneront pas loin, dit Solman.
Nous pourrions les abattre? Nous disposerions d'une réserve de bonne viande?
De la carne, oui. Et puis, la place nous manque, boiteux. Les voitures sont déjà surchargées.
Solman se tourna pour enfoncer son regard dans celui du chauffeur.
De quoi as-tu encore peur, Moram?
Pourquoi est-ce que tu me parles de ça maintenant? Qu'est-ce que la peur a à voir?
Moram se tut, comme frappé par une soudaine évidence. La peur? Oui, bien sûr. La peur de manquer. La peur de l'inconnu, la peur de l'avenir, la peur rapace omniprésente qui s'accrochait à chaque pensée, à chaque action.
Il baissa la tête en signe de capitulation.
Solman réitéra sa proposition à la femme Schön. Après avoir indiqué qu'elle avait compris, elle s'adressa à l'homme, son mari sans doute, en néerlandais. Une vive discussion les opposa, lui refusant manifestement de se compromettre avec des êtres qui symbolisaient la dépravation technologique. Elle, plus pragmatique, saisissant l'offre des aquariotes comme un cadeau inespéré, comme une possibilité de sauver la vie de leur dernier enfant. Les éclats de voix attirèrent les Schön des autres chariots, hommes et femmes, tous maigres, maladifs, vêtus de hardes puantes, parfois réduites à l'état de loque. Ils se firent expliquer de quoi ils retournaient et se mêlèrent aussitôt de la conversation, s'interrompant quelquefois pour lancer des regards tantôt haineux, tantôt curieux, aux trois représentants du peuple aquariote.
Solman n'avait pas besoin de saisir le néerland pour se rendre compte qu'il se divisait en deux camps. Celui des hommes, prêts à sacrifier leur vie et la vie des leurs sur l'autel des dogmes, celui des femmes, qui, parce qu'elles souffraient pour la donner, plaçaient la vie au-dessus de toute autre valeur.
Elles criaient plus fort que leur mari, comme toutes les femelles du monde animal, prêtes à griffer, à mordre, à tuer, pour assurer la sauvegarde de leurs petits.
« Qui a peur en ce moment ?» grogna Moram. « Eux ou moi ?»«
Les maris ne veulent pas lâcher sur les principes ?»« Mais ils finiront par céder, » dit Solman. « Ils ne peuvent pas arrêter le cours de la vie. »
C'est pas comme cette... Comment tu l'appelles déjà? Cette saloperie d'intelligence destructrice.
Elle cherche plutôt à imposer une nouvelle forme de vie. Et elle est guidée par une autre peur. La peur de l'humanité. Les femmes Schön finirent par obtenir gain de cause et chargèrent Jessica, la seule francophone du groupe, d'en informer Solman. Il fallut dégager le défilé et pour cela égorger les bœufs et démolir les chariots à coups de masse et de hache. Les chiens s'en étaient retournés sur les crêtes, escaladant les parois avec la même agilité qu'ils les avaient dévalées. La réaction des aquariotes surprit Solman lorsqu'il leur annonça qu'ils devraient encore se serrer pour accueillir des rescapés Schön. Le peuple de l'eau, rassemblé devant le camion de tête, n'émit aucune récrimination, aucune restriction. Les hommes allèrent chercher les outils dans les remorques, et les femmes invitèrent les épouses Schön à se rendre de voiture en voiture afin de redistribuer les places. Puisque la halte se prolongeait, on décida de rôtir un bœuf sur place en utilisant le bois des chariots. On l'embrocha avec un limon taillé en pointe et posé sur les moyeux de deux roues à côté aux parois. Les hommes Schön, qui s'étaient d'abord tenus à l'écart pour manifester leur désapprobation, vinrent peu à peu se joindre aux aquariotes et se réchauffer à la chaleur des braises. Après inventaire de leurs maigres ressources, ils avaient dû admettre qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Il ne leur restait pratiquement plus d'eau, plus de vivres. Les enfants en bas âge souffraient de déshydratation et de fièvre. Bon nombre d'adultes et d'adolescents, pris de vomissements et de diarrhées, n'auraient sans doute pas passé deux jours. Ils avaient également dû reconnaître que la grâce divine de leur prophète et martyr Andreas Schön s'était détournée d'eux. L'offensive brutale des Slang avait brisé leur vieux rêve d'une terre rendue à sa pureté originelle et de la réunion des 12 tribus. Du peuple arrogant qui avait fertilisé les plaines du Nord, ne subsistait qu'une petite centaine de survivants. Cela avaient eu la chance de se trouver au moment de l'attaque près des radeaux avec lesquels ils transportaient leur bétail sur les étendues d'eau des anciens polders. Ils y avaient entassé en hâte leurs familles, leurs attelages,
quelques barriques d'eau, des vivres, et s'était lancé dans une navigation hasardeuse sur le réseau fluvial légué par les hommes de l'ancien temps. Puis l'embâcle les avait contraints à abandonner les embarcations et à parcourir les pistes gelées du centre de la France dans l'espoir de gagner le lieu du grand rassemblement, harcelés par les meutes de chiens sauvages, ignorant que l'extermination s'était étendue à l'ensemble des peuples nomades. La guérisseuse étant dans l'incapacité d'exercer, Glenn se chargea de soigner les malades, assisté d'Ismaïl, qui avait gardé quelques notions de médecine de son passé de savant. Solman repoussa une nouvelle fois le moment de rendre visite à Raïma. Sans doute y avait-il de la lâcheté dans sa procrastination, mais il se saisissait de tous les prétextes pour remettre une entrevue qu'il pressentait particulièrement pénible. Le vent répandait une odeur de bois brûlé et de viande grillée. Le bleu du ciel s'assombrissait et annonçait le court intermède du crépuscule avant le déploiement de la nuit. Solman chercha Wolf pendant un bon moment, puis ne le trouvant pas, grimpa dans la cabine du camion de tête où s'était réfugié Khadija. L'odeur froide de Moram flottait dans l'air confiné. Les braises rougeoyaient dans la pénombre de la gorge, effleurant les silhouettes d'hommes et de femmes, aquariotes et chenes, affairés à découper les carcasses des bœufs. On avait précieusement recueilli le sang des animaux dans des jarres de terre cuite alignées au pied de la paroi.
« C'est étrange, » dit Khadija, avant même que Solman n'ait eu le temps de s'asseoir sur le siège et de détendre sa jambe douloureuse. « Les croyances de ce peuple, les chenes, évoquent les 12 tribus, l'espoir de retrouver le paradis perdu.
« Comment le sais-tu ? » ?»«
Je les ai entendus parler. »«
Tu comprends le Néerlande ?»«
Le Néerlande n'est qu'un mélange de 3 anciennes langues de la Terre. » Et je les comprends toutes. On dirait que leur prophète, Andreas Schön, a repris à son compte toutes les idées de l'escato.
À moins que ce ne soit l'inverse.
Solman se rapprocha d'elle et lui entoura les épaules de son bras. Elle résista un peu, avant de s'abandonner sur son épaule.
« Si tu me parlais de l'escato, » murmura-t-il.
Elle ne répondit pas. Il se laissa bercer par le rythme régulier et bienfaisant de son souffle sur son cou.